Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Il est 8h30.
Bretagne 5. L'invité du 7-9.
Et ce matin, au micro de la matinale, elle est venue de loin, du côté de Paimpol, pour être en direct avec nous ce matin, Françoise Quincard. Elle est militante La France Insoumise des Côtes d'Armor. Elle est donc venue jusqu'à nous, je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Alors on va parler de politique comme on le fait chaque matin dans la matinale. Et je le disais en commençant, vous êtes militante de la France Insoumise. J'imagine que vous avez écouté avec intérêt hier Jean-Luc Mélenchon qui était l'invité de nos confrères de TF1.
Oui, tout à fait. Ça a été un invité qui marquait finalement la sortie publique du programme, puisqu'il sort aujourd'hui, le 18 novembre, c'était prévu, il est prêt. Ce programme, il a donné le sens de ce qu'il porte, c'est-à-dire un programme où il y a une vision. C'est pas simplement une série de propositions, il y a une vision du monde. Il a insisté sur... comment les gens souffrent aujourd'hui et que lui, il n'y a absolument pas question pour lui que les gens souffrent encore dans ce pays et qu'ils souffrent des lendemains sans pain, des lendemains, des fins de mois difficiles. Et avec lui, il va éradiquer la pauvreté. Il l'a dit, quoi. Et donc là, nous sommes à la veille d'une grande diffusion militante. Par exemple, à Paimpol, nous serons à la place du Martrait samedi après-midi, il y en a à Saint-Brieuc, etc. Et juste pour rappeler qu'il y a eu deux grands rendez-vous aussi en Bretagne, à Rennes et à Saint-Brieuc, avec des députés, où il y a eu déjà une mise au pas engageant de la campagne. Nous sommes prêts, voilà, nous sommes prêts, nous avons un bon programme, nous avons une cohérence, une vision du monde, et le programme est là, disponible pour que les gens aient une opinion.
Alors vous parliez à l'instant, Françoise Quincard, de cette pauvreté, on l'entend aujourd'hui, on en a parlé sur cette antenne avec différents invités, c'est cette question aussi d'arriver à vivre, à manger aujourd'hui en France au 21e siècle, arriver à payer son électricité tout simplement. Comment Jean-Luc Mélenchon peut faire pour inverser cette tendance? Est-ce qu'il faut sortir de l'économie de marché? Est-ce qu'il faut rebattre les cartes plus en profondeur?
Ah oui, il faut rebattre les cartes en profondeur, comme vous dites, avec des ruptures. Avec des ruptures du libéralisme. Vous voyez, pour l'instant, l'énergie, c'est privé, quoi. La privatisation. Donc, il y a des conséquences sur la vie des gens. Donc, toute la logique du programme, c'est rebattre les cartes sur,
En fait, rebattre les cartes sur le programme, sur le fond du programme et sur le fond finalement de ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire garder par exemple un service de l'énergie universelle, c'est aussi une idée qui peut être portée.
Oui, c'est dans le programme. Effectivement, il faut regarder comment les sources énergétiques pour la débarrasser des lois du marché. Et là, on est sur une planification des énergies. Et là, on est sur une autre conception du monde et de la société française. C'est vraiment ça. À la fois, qui correspond effectivement à ce que l'État, le futur gouvernement de l'autorité pour dire « mais non, ça suffit maintenant, on se débarrasse du marché ». Et nous, on va faire un pôle public de l'énergie. Vous voyez, donc là, on est dans une cohérence aussi. Parce que, pauvreté, pouvoir d'achat qui n'est pas bon, les gens qui souffrent, qui n'en peuvent plus. Et la solution, c'est pas dire tout le monde va bien et le bilan n'est pas bon du président de la République. Moi, je suis désolée. Il est en train de se pavaner pour dire tout va bien. C'est pas vrai. Les gens sont en souffrance. Et là, on est dans une étape. Moi, je regarde ça avec les informations, avec ce que la Macronie dit. Tout le monde va bien. Le chômage, il n'y en a pas. Les gens, ils sont heureux. Le pouvoir d'achat, mais il a augmenté. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Donc, il y a des mensonges. La campagne, elle s'accélère. À partir de ce bilan, le président qui n'est pas candidat tout en étant président, il y a des choses qui sont en train de se clarifier. Et nous allons aller au plus près des gens pour déjà, un, Il est possible de faire autrement dans ce pays. Mmh. On peut vivre heureux. On peut vivre avec des fins de mois qui soient plus difficiles. Vous voyez, c'est cette question-là majeure qui anime Jean-Luc Mélenchon et qui est au cœur de notre programme.
Alors, s'il y a une rupture, il va falloir aussi peut-être rompre avec... Alors, quand je dis rompre avec l'Europe, je mets tous les guillemets qui s'imposent, mais si on rebat les cartes, effectivement, il va falloir s'accommoder des traités européens, s'accommoder de ce qui a été mis en place pendant des années. Et là aussi, la tâche va être rude pour Jean-Luc Mélenchon si demain il devient président de la République.
Il a été clair là-dessus. Il a dit tout ce qu'il y aura de la part de l'Europe qui nous empêchera d'appliquer notre programme, on se battra contre. Voilà. Je pense à la question de l'énergie, par exemple. Il y a au sein de l'Europe des directives qui sont là pour en fait... empêcher que la France ait sa propre indépendance et sa propre, je dirais, son propre programme. Il l'a dit nettement.
C'est l'Europe qui commande, finalement.
Ben, c'est l'Europe qui commande. Donc là, quand il y aura une mesure que l'Europe empêchera, par ses directives, qu'elle s'applique et qui nous empêche d'appliquer le programme, on se battra et on dira non.
Voilà. Alors, on voit que l'Europe, aujourd'hui, par exemple, la Grande-Bretagne a quitté l'Europe. On a ces problèmes de la pêche ici en Bretagne. Oui. Là aussi, il va falloir renégocier beaucoup de choses. Est-ce que la France peut reprendre la main en disant, voilà, nous, on décide de nos quotas de pêche, on décide de nos pêcheurs, on décide finalement de notre économie?
Oui, la France, elle a sa voix à donner à l'Europe. Elle a des choses à dire. Elle n'est pas obligée de se coucher sur les directives européennes et sur les lobbies qui sont quand même très, très influents dans les décisions de l'Europe. Elle donne de la voix. Et Jean-Luc a dit, de toute façon, nous, on va compter pour le bien du peuple, pour... vous parlez de la pêche. Moi, je parle par exemple aussi des usines, des fermes-usines, par exemple, dont l'élevage intensif. Donc tout ça est lié. Il y a une cohérence dans tout ça. Donc déjà, non, on ne va pas se laisser guider par des directives européennes qui ne concordent pas avec ce que nous portons devant les gens. On ne va pas se coucher, quand on sera élu, devant cette directive européenne. Ça sera clair et net. Pas question. Voilà. Donc, il y aura un travail courageux à donner et donner de la voix. La France, elle est souveraine, elle a des atouts.
Elle a perdu sa voix un petit peu, la France.
Ah oui, je pense, oui. Oui, je pense.
On a le sentiment, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, de retourner à une France, alors pardonnez-moi, je fais une ellipse, un parallèle historique, mais une France forte telle que l'avait voulu, par exemple, le général de Gaulle en son temps.
Oui, cette France, comme vous dites, c'est plus celle-là, quoi. Il faut la regagner. Il faut que cette France, qui est une France qui a des atouts formidables, qui a un potentiel humain, qui a une magnifique cerveau, des chercheurs magnifiques, il faut que cette France elle trouve complètement sa place en Europe et dans le monde. On a eu des progrès magnifiques. Il faut qu'elle retrouve sa place, effectivement, comme telle. Il ne s'agit pas de dominer les gens. Mais il y a une espèce de, coopération avec, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas regarder de près en Europe quel pays le plus pointu sur une avancée démocratique, sur une avancée sociale. Voilà, donc ça, c'est notre conception pour l'Europe. Il ne s'agit pas de dire non à l'Europe, ce n'est pas ça. C'est complètement différent.
Alors, en France, on a des problèmes sociaux, on le voit aujourd'hui. Oui. Il y a eu la crise qui est passée par là. Beaucoup de gens ont décidé de changer de travail parce qu'ils en avaient marre. Pardonnez-moi le terme, il est peut-être un peu trivial. On a vu une hémorragie par particulière dans les professions de santé, dans les professions du médical, du médico-social. Aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir réformer le système de santé? On sait que Jean-Luc Mélenchon y est attentif. Est-ce que ça va passer par, là aussi, rebattre les cartes, reconstituer quelque chose? On a le sentiment que beaucoup de lits, d'ailleurs c'est pas seulement un sentiment, c'est un constat, que beaucoup de lits ont été fermés un petit peu partout en France. Est-ce qu'il faut réouvrir des hôpitaux de proximité? Est-ce qu'il faut là aussi travailler à la réimplantation, pardonnez-moi le terme, il est peut-être un peu technique, mais la réimplantation des médecins dans les campagnes, on en manque cruellement. Est-ce que là aussi, il va y avoir un grand chantier pour le futur président?
Il y a un grand chantier à faire, effectivement. L'hôpital souffre. On ferme des lits, y compris on a fermé des lits pendant le Covid. Les professionnels de santé sont épuisés. Ça clignote de partout. Donc là, il faut revoir en fond l'offre hospitalière. Il faut revoir aussi les conditions pour les médecins d'avoir un engagement par leur formation, etc., pour être au service de la nation, pour effectuer leur profession, y compris dans des déserts, parce que c'est pas possible, ça. Il faut revoir tout ça, le numerus clausus, etc. Et il faut absolument que l'hôpital sorte de ce que l'ancienne ministre de la Santé avait mis au point, du tout comptable, si vous voulez. Donc là, y a un gros chantier. Chantier. Et dans le programme, nous avons aussi des choses très pointues de ce point de vue, de conditions de travail pour que la santé soit vraiment dans l'esprit d'Ambroise Croizat à la Libération. Je suis désolée, mais il faut rappeler ça, que ce soit vraiment la santé au service de tous.
Ambroise Croizat, l'un des pères de la sécurité sociale.
Ah ben oui, c'est lui qui est ministre de la Libération, oui.
Voilà.
Oui.
Alors là, on sait, hein, je convoquais De Gaulle tout à l'heure pour dire, voilà, il y a un programme, un retour à une France plus forte, une France plus protectrice aussi. Jean-Luc Mélenchon l'a dit hier soir, arrêter de maltraiter les gens. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les gens sont maltraités?
Tout à fait.
Les ouvriers, les...
Les gens sont maltraités, il y a un glissement vraiment de ce pouvoir pour considérer les gens comme, je dirais, des gens qu'on peut déplacer, qu'on peut appauvrir, qu'on peut laisser de côté, des jeunes qui sont sur le bord. Par exemple, Jean-Luc l'a rappelé hier, il y a des comment dirais-je, excusez-moi, je retrouve mon fil, il y a des dans la fonction publique, il y a des gens qui sont en CDD. Il faut les embaucher. Il faut que ça soit, c'est pas possible que les gens soient embauchés 6 mois, on les jette, on recommence, etc. C'est pas possible. Donc il faut revoir tout ça. Il faut revoir.
Il faut revoir peut-être les contrats sociaux. Est-ce qu'il faut moins de CDD, plus de CDI, par exemple?
Le droit au travail. Il faut que. Il n'y a pas de raison que, par exemple, il y a des personnes dans la fonction publique qui sont en CDD sans arrêt, quoi. C'est plus possible. C'est précaire, ça. Comment voulez-vous construire une vie familiale, une vie professionnelle, en disant peut-être dans 6 mois, j'ai plus de boulot? C'est plus possible. Donc il faut revoir tout ça. Vous voyez, c'est l'esprit dont on parle.
Alors, dans cet esprit, il y a aussi refonder une France qui s'inscrit aussi dans le respect de l'environnement. Hein. On en a beaucoup parlé avec cette COP26 en demi-teinte, qui a été qualifiée d'échec, d'ailleurs, par Greta Thunberg elle-même. Sur l'environnement, comment activer, là aussi, des leviers pour changer un petit peu la donne et faire en sorte que, on aille vers quelque chose de plus vertueux?
Oui, c'est un grand sujet. Du reste, dans le programme, nous en parlons longuement.
Il faut rebattre les cartes, là aussi.
Oui, il faut complètement rebattre les cartes. Il faut complètement rebattre les cartes. complètement rebattre les cartes. Là, il y a revoir, je dirais, du sol au plafond, notre politique en ce domaine. Là, c'est des insatisfactions. C'est pas possible de continuer comme ça. Il y a besoin de recommencer tout ça. Oui.
Il faut s'appuyer sur la jeune génération. Et, elle vient souvent au micro de Bretagne 5, cette jeune génération qui s'engage en politique, quelle que soit d'ailleurs finalement la sensibilité. On a l'impression que cette jeune génération a envie un petit peu de bousculer les habitudes. On sait que Jean-Luc Mélenchon a été attaché à vouloir réformer la 5e République, même à passer à la 6e. Est-ce que voilà, faut s'appuyer sur la jeunesse, sur ses desiderata, sur l'envie un petit peu de bousculer les choses?
Ah, la jeunesse, elle est formidable. Elle met les pieds dans le plat. Elle s'invite quand il va dans les facs, etc. Il y a vraiment des échanges très fructueux, très riches avec ces jeunes étudiants et d'autres. Et là, il y a vraiment une prise de conscience chez les jeunes que ça va pas. Une prise de conscience en disant, nous, on compte. On veut participer à la construction de cette France de maintenant et de l'Europe, bien sûr. Et il y a un potentiel formidable. Moi, j'ai vécu d'autres éléments de la vie politique. Et là, je trouve que là, il y a une politisation forte de la jeunesse à dire, nous, on compte. On veut donner de la voix. On a des idées. Entendons-nous et on ira si vous nous ouvrez la porte. Donc moi, vraiment, c'est un appel que j'entends de la part de cette jeunesse, de ces jeunes filles et ces jeunes gens, qui sont cultivés, qui ont envie d'être de plein pied dans ce siècle et qui ont envie de compter dans la vie politique et sociale. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est un grand appel.
Alors Jean-Luc Mélenchon a dit, hein, j'assume pleinement le fait de la rupture. On comprend évidemment que la campagne présidentielle est lancée, bien lancée cette fois-ci. Campagne présidentielle quand même qui est lancée dans un climat particulier. On va en dire deux mots. Monsieur Zemmour s'est invité dans cette campagne, polémiste, candidat putatif, hein, c'est le terme qui est employé bien souvent. Il n'est pas candidat d'ailleurs au moment où nous parlons au micro de Bretagne 5. Pour vous, c'est un échec le fait que la droite extrême prenne autant de place dans cette campagne?
Non, c'est pas un échec, c'est fait pour. C'est mis en scène tout ça. Cet homme qui est fier d'annoncer ce qu'il est, raciste, xénophobe, vraiment la droite extrême. Tous les micros lui sont ouverts. Donc là, il y a une opération qu'il ne faut pas négliger. Là, j'observe que quand même, là, hier soir, il s'est pris une baffe. Moi, je suis contente, déjà, c'est pas mal. Mais il y a quand même une mise en scène politique qui vont bien aussi à la droite traditionnelle, qui, moi, je les entends pas bien le combattre sur le fond. Et c'est vraiment un homme... moi, je crois qu'il va disparaître du paysage bientôt, parce que là, il a quelques gamelles. Et en plus de ça, non, ça le fait pas, quoi. Les gens n'entendent pas, hein, même. Mais il a été beaucoup mis en avant, quoi. Il faut regarder pourquoi. Pourquoi ?
On a une France qui s'abstient à chaque élection, ouais. Alors peut-être un petit peu moins lors de la présidentielle. Oui. Il a tendu la main, il a fait un appel du pied, voilà, à cette France qui s'abstient. Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter, cette France désespérée, qui n'attend plus rien de la politique, qui pourrait se tourner éventuellement vers l'extrême droite ?
Moi, j'ai envie de dire que dès lors que les gens vont avoir entre les mains notre programme « L'avenir en commun », qui vont s'approprier tous les axes de notre programme, qui est dense, hein, il est très très épais, je peux vous dire que c'est épais. Là, il sort aujourd'hui, ça va donner à voir qu'il y a d'autres perspectives que celles qui nous ont conduits à ce que les gens disent, il n'y a rien d'autre. Non, ce n'est pas vrai. D'abord, Jean-Luc, ça fait un an qu'il est candidat, qui se bat, qui donne des arguments, qui fait beaucoup de pédagogie. Les gens, on est là aussi, les militants, pour débattre avec eux. Et moi, je serai, par exemple, à Paimpol, samedi après-midi, pour discuter avec Jean, les rencontrer et les gagner à ce que... D'abord, un, c'est pas fatal que la droite reste, l'extrême droite ait autant de poids. Mmh. Qu'il y a des perspectives à gauche, y compris de construction, telles que nous nous proposons, sur l'humain au cœur de notre stratégie, et faire en sorte que les gens... vivent pleinement dans cette société. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui soient mis de côté, qui soient la jeunesse, qui soient brocardés. Enfin bon, toute cette violence, on connaît la situation. Il y a autre chose à faire. Il y a vraiment une autre perspective à gauche et nous le portons avec force. Moi, j'y suis engagée pleinement, même à mon âge, j'ai envie de me battre encore et de gagner l'année prochaine.
Alors, la droite est un petit peu, j'allais dire, en ordre dispersé en ce moment. La gauche peine aussi à rassembler. On voit au PS, alors bon, nous, on en a choisi un petit peu comme nos confrères de Ouest-France de ne pas sortir de sondage, mais on voit quand même qu'Anne Hidalgo est à la peine. Est-ce qu'il y a, voilà, il n'y aurait pas eu à ressortir. Alors j'allais presque dire ce vieux rêve d'une gauche unie qui peine quand même à discuter entre elles avec différents courants, différentes sensibilités. En gros, est-ce que la gauche peut se réunir à nouveau, par exemple, pour faire front à l'extrême droite ?
On est au début de quelque chose d'important. Est-ce que la gauche va se ressaisir pour gagner voilà. Le mieux placé en ce moment, c'est Jean-Luc Mélenchon, de toute façon. Bon. Le programme est prêt, il va être entre les mains des gens. Beaucoup de militants, d'élus, de députés, etc. vont aller à la rencontre de ces gens. On est prêt, le programme est prêt. Voilà, on est prêt.
Reste qu'il faut réunir aussi.
Oui, oui, mais on ne réunira pas les gens... comme faire une gauche unie alors qu'elle n'y est pas. Il ne faut pas abuser. Vous voyez, ça n'existe pas.
Le PS s'est éloigné, par exemple, des idées de gauche.
Oui. Oui, malheureusement. Là, ils sont sur une thématique qui n'entraîne pas les gens. Il n'y a pas d'espoir. Moi, j'écoutais, par exemple, une réflexion ce matin en venant à la radio, que Madame Hidalgo ne veut pas, par exemple, jeter les ponts pour une 6e République. Mmh. Elle reste sur la 5e. Voilà, et ça, c'est un débat. Ça, c'est quelque chose de fort, quoi. C'est structurant, ça. Donc ça, on est différent, on n'est pas d'accord. Bon, faut pas tomber de l'armoire, on n'y est pas. Donc, quand on parle de l'union populaire, la citoyenneté, que les gens ont entre les mains de quoi se faire leur propre opinion, en regardant pas seulement les programmes, mais la visée pour la République, la visée pour le monde, la visée pour d'être pleinement dans ce siècle-là, avec les atouts qu'a la France et l'Europe. Et je dis bien aussi l'Europe. Donc, on est sur une autre période. Je dis une autre période nouvelle. Les anciens schémas... C'est les anciens schémas. Ils sont plus, là, on n'en est pas. Moi, je vois, par exemple, Jadot, il y a des choses sur lesquelles il réfléchit, il avance. Bon, on n'est pas complètement d'accord sur tout, bien sûr, puisque lui, il travaille sur une autre thématique. Mais malheureusement, Madame Hidalgo, vous voyez, quand elle dit, bon, ben nous, non, on continue la 5e République. Mais non, la 5e République, elle est à bout de souffle, quoi.
Vous seriez plus proche des Verts, finalement, de Yannick Jadot que du PS, d'Anne Hidalgo ?
Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je vois que Jadot, il est en train, y compris lui-même, de progresser, de réfléchir. Mmh. Et donc ça, c'est peut-être une main tendue pour peut-être travailler ensemble. Je ne sais pas, là, nous sommes au début de la campagne, quelque part. Hein. Mais il y a quelque chose, il y a un frémissement. En même temps, lui, il y a des choses sur lesquelles on ne sommes pas d'accord. Mmh. Mais c'est pas le souci. Le souci, c'est qu'il y a un élan populaire. Qu'il y ait vraiment pour les gens enfin, on peut avoir une autre perspective que d'avoir un duel, la droite, le Front National au deuxième tour, qu'il peut y avoir un appel d'air sur l'envie des gens de faire de la politique et de s'y mettre pour gagner. Mmh. Pour gagner parce que ce programme correspond à leurs attentes, correspond à ce qu'ils veulent. Sauf qu'il faut les aider à comprendre qui correspond à leurs attentes. Mmh. Vous voyez, donc on a un travail de proximité, de conviction à avoir. Nous, les militants, les dirigeants vont le faire. Moi, je n'ai pas de souci là-dessus et ça se passe très, très bien. Et là, on a vraiment un travail. Mais moi, je dis, il est passionnant, ce travail, parce qu'il fait partie de la conviction. Il faut gagner la conviction des gens.
En tout cas, vous en parlez avec passion, Françoise Quincard. Alors, il nous reste, allez, deux, trois petites minutes. Ça va aller très vite. Il y a aussi, alors je ne l'ai pas mis en avant, parce qu'on en parle beaucoup, mais les problèmes de sécurité. Aujourd'hui, les gens ont le sentiment de ne pas vivre en sécurité. Est-ce que là aussi, il va falloir imaginer plus de sécurité dans nos rues, peut-être plus de coercition. Quelle est la position de la France insoumise là-dessus?
Alors, qui a le sentiment d'insécurité, c'est sûr. Voilà, il y a besoin, puisqu'on est quand même dans une France qui est abîmée.
Les gens ne se parlent plus, finalement.
Les gens, vous voyez, ils se méfient de l'un de l'autre. Il y a tout un climat qui n'est pas bon pour que les gens s'épanouissent normalement dans une société où ils pourraient s'épanouir. Donc, il y a ce sentiment-là. Je pense que ça passe par la main tendue, par la discussion, par... tiens, si on en parlait ensemble, comment ça se passe pour vous ? Il faut vraiment que nous-mêmes, nous soyons en capacité de faire tomber les digues, entre les gens.
Apaiser, finalement.
Ah oui, 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 parce qu'il y a des digues très, très fortes entre les gens qui empêchent de communiquer. Mmh. Et là, si on fait ça, on peut arriver à quelque chose de formidable. Cet élan populaire qu'on a besoin de gagner.
Alors, en un mot, parce que là, il ne nous reste vraiment plus que quelques secondes. On a une campagne qui est dure. On a vu des élus de toute sensibilité politique qui ont reçu des menaces de mort pour certains d'entre eux. Est-ce que là aussi, il va falloir très vite apaiser, parce qu'on est quand même sur une pente un peu glissante?
Alors, il faut apaiser. Il faut que la démocratie dans notre pays, c'est de s'écouter, pas forcément de s'entendre, mais se respecter. Et surtout, toute la violence, il faut vraiment la rejeter. C'est ça aussi la France, enfin celle que j'ai connue moi, et qui existe encore. Mais se parler, se convaincre peut-être, peut-être pas, mais pas tourner le dos, réfléchir, s'écouter, peut-être travailler les arguments pour bien se faire comprendre. C'est ça la citoyenneté. C'est ça la citoyenneté. Moi, je la sens comme ça.
Une France citoyenne, une France qui s'écoute et qui se parle.
Ah oui.
Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter, car le temps passe vite, hein, vous voyez, à la radio. Françoise Quincard, je rappelle que vous êtes militante de la France insoumise des Côtes d'Armor. Vous êtes venue de loin, de Paimpol, hein, pour être avec nous ce matin au micro de la matinale. C'était votre première radio ?
J'en ai fait d'autres quand j'étais plus jeune, mais ici en Bretagne, la première. Merci de m'avoir accueillie.
Voilà, ben, vous voyez, ça s'est très bien passé. Merci infiniment et belle journée.
Merci beaucoup.
Bretagne 5 matin, le 7-9. Stéphane Hamon.